De la difficulté d'être possédé par d'autres pays. S'agissant des actifs internationaux franco-britanniques de 1880-1914, une partie provenait également des excédents commerciaux réalisés par les deux puissances industrielles depuis le début du XIXe siècle. Plusieurs points doivent toutefois être précisés. Tout d'abord, il n'est pas simple de dire ce qu'auraient pu être les flux commerciaux sans l'effet des rapports de force et de la violence militaire. Cela est évident pour les exportations d'opium imposées de force à la Chine à la suite des guerres de l'opium et qui font partie de ces excédents commerciaux enregistrés pour les deux premiers tiers du XIXe siècle. Mais cela l'est tout autant pour les autres exportations, en particulier textiles, qui se sont développées dans le cadre de rapports de force internationaux et interétatiques extrêmement violents, aussi bien concernant l'approvisionnement cotonnier à base de travail servile nécessaire à leur production, que pour ce qui est du traitement punitif infligé aux productions indiennes et chinoises, sur lequel nous reviendrons plus loin. Voir dans ces flux commerciaux du XIXe siècle le simple effet de la main invisible et des forces du marché n'est pas très sérieux et ne permet pas de comprendre la réalité de ces transformations éminemment politiques du système interétatique et commercial mondial. En tout état de cause, si l'on prend les flux de marchandises comme données, le fait est que les excédents commerciaux que l'on peut mesurer sur la base des sources disponibles pour la période 1800-1880 ne permettent d'expliquer qu'une partie minoritaire, entre le quart et la moitié, des énormes actifs financiers étrangers détenus par les deux pays autour de 1880. Ces derniers correspondent donc majoritairement à d'autres opérations, comme les quasi-tribus militaires évoqués plus haut, des appropriations diverses sans contrepartie, ou bien des plus-values particulièrement élevées sur certains placements. Enfin, et peut-être surtout, quelle que soit la part licite ou illicite, morale ou immorale, des actifs financiers franco-britanniques de la période 1880-1914, ou d'ailleurs de ceux de l'avenir, il est important de comprendre que de telles détentions patrimoniales, une fois qu'elles ont atteint une certaine taille, suivent leur propre logique d'accumulation. Il faut insister ici sur un fait qui est peut-être insuffisamment connu, bien qu'il soit très bien attesté par les statistiques commerciales de l'époque et parfaitement su des contemporains. Au cours de la période 1880-1914, le Royaume-Uni et la France reçoivent des revenus de leurs placements tellement élevés de la part du reste du monde, environ 5% de revenus nationaux additionnels pour la France, plus de 8% pour le Royaume-Uni, qu'ils peuvent se permettre d'être en déficit commercial structurel et permanent, entre 1% et 2% du revenu national de déficit commercial en moyenne pour ces deux pays au cours de cette période, tout en continuant d'accumuler des créances sur le reste du monde à un rythme accéléré. Autrement dit, le reste du monde travaillait pour accroître la consommation et le niveau de vie des puissances coloniales, tout en devenant de plus en plus fortement endetté vis-à-vis de ces puissances. Cela correspondrait, par exemple, à la situation où un ouvrier consacrerait une large part de son salaire pour payer son loyer au propriétaire de son appartement, et où le propriétaire utiliserait ses loyers pour acheter le reste de l'immeuble, tout en menant grand train par comparaison aux ménages ouvriers qui n'ont que leur salaire pour vivre. Cela en choquera peut-être certains, ce qui me semblerait sain, mais il est important de réaliser que l'objectif de la propriété est précisément d'apporter une plus grande capacité de consommation et d'accumulation à l'avenir. De même, l'objectif d'accumuler des actifs étrangers, que ce soit au moyen d'excédents commerciaux ou d'appropriations coloniales, est de pouvoir ensuite avoir des déficits commerciaux. C'est le principe de toute accumulation patrimoniale, au niveau domestique comme au niveau international. Si l'on souhaite sortir de cette logique d'accumulation infinie, alors il faut se donner les moyens intellectuels et institutionnels d'un véritable dépassement de la notion de propriété privée, par exemple avec le concept de propriété temporaire et de redistribution permanente de la propriété. En ce début de XXIe siècle, on s'imagine parfois que les excédents commerciaux sont une fin en soi et pourraient se perpétuer indéfiniment. Cette perception traduit une transformation politico-idéologique qui est extrêmement intéressante en tant que telle. Elle correspond à un monde où l'on se soucie de procurer des emplois à sa population dans les secteurs exportateurs, autant que d'accumuler des créances financières sur le reste du monde. Il reste que ces créances financières, aujourd'hui comme hier, n'ont pas simplement vocation à procurer des emplois, du prestige et du pouvoir au pays en question, même si ces objectifs ne doivent pas être négligés. Elles visent aussi à procurer des revenus financiers futurs qui permettent certes d'acquérir de nouveaux actifs, mais également des biens et des services produits par les autres pays sans avoir besoin de leur exporter quoi que ce soit. Si l'on considère le cas des pays pétroliers, qui constitue l'exemple contemporain le plus évident d'une très forte accumulation d'actifs internationaux, il est bien évident que les exportations de pétrole et de gaz, et les excédents commerciaux correspondants, ne dureront pas éternellement. L'objectif poursuivi est précisément d'accumuler suffisamment de participation financière dans le reste du monde pour pouvoir ensuite vivre de ses réserves et des revenus apportés par ses placements, afin de pouvoir importer toutes sortes de biens et services du reste du monde, bien après l'épuisement complet des hydrocarbures. S'agissant du Japon, dont les très importants actifs financiers et étrangers, qui sont actuellement les plus importants de la planète, 80% du revenu national, sont issus des excédents commerciaux industriels nippons des dernières décennies. Il est possible que le pays soit sur le point d'entrer dans une phase de déficit commercial structurel, ou à tout le moins en ait fini avec la phase d'accumulation. Ce tournant finira probablement par arriver pour l'Allemagne, et aussi pour la Chine, quand les réserves auront atteint un certain niveau et que le vieillissement du pays sera plus avancé qu'aujourd'hui. Il n'y a évidemment rien de particulièrement naturel dans ces évolutions. Elles dépendent des transformations politico-idéologiques des pays concernés et de la façon dont les différents acteurs étatiques et économiques perçoivent et relatent ces enjeux. Je reviendrai plus loin sur ces questions et ces sources possibles de conflits futurs. Le point important sur lequel je souhaite insister ici est simplement que les relations internationales de propriété ne sont jamais simples, surtout quand elles atteignent de telles proportions. À dire vrai, ce sont les rapports de propriété en général qui sont toujours plus complexes que les relations réputées spontanément harmonieuses et mutuellement avantageuses, parfois évoquées dans le conte de fées des manuels d'économie. Il n'est jamais simple pour un salarié de consacrer une part importante du produit de son travail pour payer un profit ou un loyer à son propriétaire, ou pour les enfants de locataires de payer des loyers aux enfants de propriétaires. C'est pourquoi les relations de propriété font toujours l'objet de conflits et donnent lieu au développement de multiples institutions visant à réguler la forme de ces relations et les conditions de leur perpétuation. Cela peut se faire au moyen de luttes syndicales et de mécanismes de partage du pouvoir au sein des entreprises, de législation sur la fixation des salaires et le contrôle des loyers, de limitation du pouvoir d'éviction des propriétaires, de la fixation de la durée des baux et des éventuelles conditions de rachat, d'impôts successoraux et de multiples autres dispositifs fiscaux et légaux visant à favoriser l'accès de nouveaux groupes sociaux à la propriété et à limiter la reproduction dans le temps des inégalités patrimoniales. Mais quand il s'agit pour un pays de payer sur une base durable des profits, des loyers ou des dividendes à un autre pays, alors de telles relations peuvent devenir encore plus complexes et explosives. La construction par la délibération démocratique et les luttes sociales d'une norme de justice acceptable par le plus grand nombre, processus déjà fort complexe au sein d'une communauté politique donnée, devient pratiquement impossible quand les propriétaires sont extérieurs à cette communauté. Le cas le plus fréquent et le plus probable est que ces relations se retrouvent régulées par la violence et la contrainte militaire. À la Belle Époque, les puissances coloniales utilisaient abondamment la politique de la canonnière pour s'assurer que les paiements d'intérêts et dividendes se fassent en temps et en heure et que personne ne songe à exproprier les créanciers. Cette dimension militaire et coercitive des relations financières internationales et des stratégies d'investissement des différents pays joue également un rôle essentiel en ce début de XXIe siècle au sein d'un système interétatique qui est toutefois devenu beaucoup plus complexe. En particulier, deux des principaux créditeurs internationaux actuels, le Japon et l'Allemagne, sont des pays sans armée, alors que les deux principales puissances militaires, les États-Unis et à un degré moindre la Chine, se soucient davantage d'investir sur leur territoire que d'accumuler des créances externes, ce qui peut s'expliquer par les dimensions continentales de ces deux pays, ainsi que par leur dynamisme démographique, facteur qui est en passe de changer dans le cas de la Chine et changera peut-être un jour aux États-Unis. Il reste que l'expérience des actifs étrangers franco-britanniques de la Belle Époque est riche d'enseignements pour l'avenir et pour notre compréhension générale du régime inégalitaire propriétariste, en particulier dans sa dimension internationale et coloniale. À ce sujet, il faut noter que les mécanismes de contraintes financières et militaires développés par les puissances coloniales pour pérenniser l'accumulation s'appliquaient aussi bien aux territoires explicitement colonisés qu'à des pays qui ne l'étaient pas, ou pas encore. Par exemple la Chine, la Turquie et l'Empire ottoman, l'Iran ou le Maroc. De façon générale, quand on examine les sources disponibles sur les portefeuilles internationaux de l'époque, on constate qu'ils s'étendaient très au-delà des colonies au sens strict. Au sein des actifs financiers internationaux détenus par les Parisiens de 1912, la part qui peut être rattachée directement à l'Empire colonial français est comprise entre un quart et un tiers, le reste se répartissant en une grande diversité d'autres territoires, Russie et Europe de l'Est, Levant et Perse, Amérique latine et Chine, etc. Les nouvelles composantes territoriales de l'Empire colonial, en particulier en AEF et AOF, n'étaient pas toujours les plus profitables en termes de revenus financiers. Elles fonctionnaient surtout pour le bénéfice des administrateurs et des colons qui s'y trouvaient, et également au nom du prestige moral de la puissance civilisatrice, telle que se le représentait une partie des élites et de la population française de l'époque. On retrouve la même diversité de situations dans le cas du Royaume-Uni. Le portefeuille international des propriétaires britanniques rapportait dans son ensemble des revenus très confortables, permettant de financer un déficit commercial structurel vis-à-vis du reste du monde, tout en poursuivant une accumulation de créances à un rythme accéléré. Mais certaines composantes de l'Empire étaient beaucoup moins profitables que d'autres et relevaient d'une mission civilisatrice générale ou d'une stratégie au bénéfice de groupes spécifiques de possédants ou de colons, davantage que d'une opération strictement financière. Pour résumer, le régime inégalitaire international de la Belle Époque mêlait dans son schéma de justification à la fois des dimensions propriétaristes et civilisatrices, et chacune de ces dimensions a laissé des traces essentielles sur les évolutions ultérieures.